Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. Capot Diamant et Nature Sauvage. Au programme, l'établissement de la frontière canado-américaine et les pollinisateurs profession colporteur de pollen. Bonne écoute.
L'établissement de la frontière canado-américaine et la création d'un État canadien en 1867. Un texte de David Bouchard, paru dans le magazine Capot Diamant, hiver 2022, le numéro 148. L'établissement de la frontière canado-américaine et la création d'un État canadien en 1867. À la suite de la signature du traité de Paris 1783, par lequel la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique, l'établissement de la frontière entre les colonies britanniques d'Amérique du Nord et la Nouvelle République devient un enjeu à résoudre. Objet de litiges qui engendrent de nombreux débats houleux, elle attise les tensions entre le nouvel État et les colonies de l'ANB. La longue série de négociations, les incidents diplomatiques et les postures idéologiques sont à l'origine de l'emplacement de la frontière actuelle entre le Canada et les États-Unis. À l'aune de ce constat, nous formulons l'hypothèse que ces sources de tensions qui opposent le Royaume-Uni et les États-Unis ont accéléré le processus de création d'un État canadien. Pour arriver à cette hypothèse, il est primordial de cerner les éléments de tension autant extérieurs qu'intérieurs. Tel qu'il est présenté dans les études de Pierre-Alexandre Bélier, de Francis M. Carroll ou de Craig Brown, pour n'en nommer que quelques-uns, l'établissement d'un État canadien fut un processus long et fastidieux, influencé par le développement, croissance, des États-Unis. Partant de ce constat, notre article sera construit autour des divers enjeux centraux des relations britanno-américaines et qui ont marqué la construction du Canada. Dans un premier temps, il sera question des nombreux conflits ayant opposé la couronne britannique et les États-Unis. Dans un deuxième temps, il sera question de l'apogée des frictions afin de démontrer leur influence dans la création d'un sentiment de défense commune et de confirmer la nécessité de l'union. Enfin, il s'agira d'évaluer l'impact des nombreux courants annexionnistes qui ont, eux aussi, influencé la création d'une Union canadienne. Au terme de cette analyse, il sera possible d'affirmer que ces événements ont bel et bien accéléré le processus de création du Canada. Une frontière construite à l'aune des mentalités coloniales. La frontière entre le Canada et les États-Unis trouve son origine dans le conflit qui oppose les 13 colonies et le gouvernement à Londres. En 1783, les États-Unis obtiennent leur indépendance de la Grande-Bretagne et entament ainsi le processus de création de ce qui deviendra la plus grande frontière non protégée du monde. Dès son origine, cette frontière s'avère des plus litigieuses pour les deux parties. En raison du manque de connaissance du territoire, la ligne de démarcation est souvent floue et manque de cohérence puisque le tracé est décidé en Europe par des parlementaires et quelques représentants américains n'ayant qu'une vague connaissance du territoire. Ce tracé frontalier, qui traverse un territoire généralement non occupé par des colons, a, en quelque sorte, accéléré la construction du Canada. Puisqu'un État doit d'abord occuper un territoire pour y affirmer sa souveraineté, des politiques d'expansion et de colonisation sont adoptées au nord comme au sud de la frontière pour atteindre cet objectif. Tout au long du 19e siècle, des opérations de colonisation sont menées le long de la frontière, et ce, en préservant l'objectif d'y étendre l'influence politique et administrative sur des étendues décrites comme « vierges » par les autorités qui font souvent d'autrement fi de la souveraineté des nations autochtones qui occupent, fréquentent, exploitent ces territoires. Autant à l'ouest qu'à l'est des Grands Lacs, les tensions entre les États-Unis et l'Amérique du Nord britannique façonnent le territoire et favorisent la création d'un État canadien. Dans l'est, la frontière entre le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Maine représente le point le plus chaud des négociations territoriales entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. À plusieurs reprises, la Couronne et le Congrès vont essayer de trouver un terrain d'entente, mais en vain. Le traité de Paris, 1783, confus et ambigu, car il est basé sur une vieille carte d'un certain John Mitchell, laisse place à de nombreuses interprétations qui avantagent parfois un parti, d'autres fois l'autre. Comme le soulignent Craig Brown et Francis Carroll, la frontière est le théâtre d'une course d'expansion coloniale qui aboutit la plupart du temps en affrontement. L'historien Francis Carroll estime d'ailleurs qu'une troisième guerre entre les États-Unis et l'Empire britannique aurait pu résulter des frictions le long de la frontière, et ce, malgré tous les efforts diplomatiques. C'est pourquoi, en 1842, le traité de Ashburton-Webster est signé. À l'ouest, la situation est similaire. Or, comme le soutient Lauren McKenzie, l'intégration économique du Canada aux États-Unis, le peu de population sur le territoire, la complémentarité économique des deux territoires et la proximité géographique et sociale favorisent un règlement des tensions. La frontière est donc établie en 1818 le long du 49e parallèle entre le lac des Bois et les Rocheuses. Or, le commerce nord-sud bien enraciné dans les habitudes des colons de chaque côté de la frontière perdurera bien après l'entente de 1818, de sorte que le 49e parallèle s'avère être, dans les faits, une frontière imaginaire. Il faudra attendre jusqu'en 1846 pour que cette frontière soit légitimée et socialement acceptée. Cette délimitation arbitraire ne répond pas à la réalité culturelle, sociale et économique de la région, mais répond bien plus à un pragmatisme étatique visant la stabilité géopolitique de la région. À la lumière de ces faits, il est possible d'avancer l'hypothèse selon laquelle l'identité canadienne s'est forgée autour de luttes visant à déterminer la frontière avec les États-Unis. Les Canadiens ont ainsi construit leur identité par rapport à ce qu'ils ne sont pas, en opposition à ce qui se situe au-delà de la frontière. Guerre, raid et annexionnisme à la veille de la Confédération. Les tensions géopolitiques entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ne sont pas pour autant dissipées après l'adoption d'une frontière commune. Les autorités britanniques estimaient même qu'une invasion du Canada par les troupes de l'Union aurait lieu à avant la fin de la guerre de Sécession. En effet, les colonies britanniques d'Amérique du Nord, plus particulièrement la province du Canada, sont de plus en plus isolées. Et il se développe une hostilité de la part des Américains à leur égard, et ce, malgré la supposée neutralité du Royaume-Uni dans ce conflit. Nous parlons de supposée neutralité, puisque Londres offre un soutien trompeur aux Confédérés. De plus, la population canadienne est plutôt favorable à l'idéologie sudiste de l'époque. Les tensions, comme le témoigne un éditorial du journal à Chicago et à New York, sont bien réelles. On peut y lire « Attendez que la guerre finisse et on réglera votre compte ». Un second élément ayant, selon nombre d'historiens, mené à la création du Canada est la série de raids feignants. Pour Edward MacDonald et Peter Ronski, les feignants ont pour objet de créer an independent, democratically liberal, republican Ireland, free of the British Crown. C'est pourquoi ils planifient, entre 1864 et 1866, de favoriser des tensions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne afin de provoquer une guerre qui pourra obliger celle-ci à accorder l'indépendance de l'Irlande. Vis-à-vis de cette menace, une crise politique ébranle la colonie. En effet, même si cet événement n'a jamais compromis sérieusement la défense des colonies de l'ANB et leur place au sein de l'Empire, il aura tout de même marqué l'imaginaire collectif des habitants de l'époque. Pour la première fois depuis 1812, la population de la colonie du Canada a développé un sens du danger commun et, conséquemment, une volonté de défense mutuelle. Les raids feignants, au même titre que les tensions frontalières avec les États-Unis, ont favorisé l'union des colonies britanniques nord-américaines. Il faut cependant retenir que cet événement s'ajoute à un ensemble d'autres facteurs. Bien qu'il favorise ou accélère le processus d'affirmation nationale canadienne, il serait injuste de baser le nationalisme canadien uniquement sur la peur des Fenians. Enfin, le troisième élément clé ayant contribué à la création d'un État canadien est l'idéologie annexionniste au sein des colonies britanniques nord-américaines. Même si le mouvement n'a jamais eu d'ampleur au point d'ébranler la cohésion sociale, la crainte qu'il a suscitée parmi les élites politiques de la société canadienne a vraisemblablement contribué à favoriser la création d'un État. Bien que la littérature ait peu abordé le sujet, il existe des documents témoignant de la posture annexionniste durant la seconde moitié du 19e siècle. Par exemple, le 11 octobre 1849, la Montreal Gazette publie l'Annexion Manifesto, un texte qui fait la promotion de l'annexion et qui est signé par plus de 300 personnes. En 1855, Louis-Antoine Dessaules publie un recueil où il y regroupe les discours portant sur l'annexion de l'Amérique du Nord britannique aux États-Unis. Pour Dessaules, les institutions républicaines ont non seulement élevé les États-Unis à un degré de prospérité inouï, mais ont aussi réalisé, dans la pratique gouvernementale, un ordre, une méthode, une économie inconnue sous notre régime colonial. On retrouve, chez des annexionnistes comme Dessaules, un intérêt pour le républicanisme mis en place chez leurs voisins du Sud, mais aussi un intérêt pour la prospérité et la démocratie qu'on estime absente de la colonie du Canada en raison du régime politique britannique. En effet, à l'époque, les parlementaires luttent toujours pour l'obtention d'un gouvernement représentatif. En somme, bien que marginal, l'annexionnisme est étroitement relié aux mœurs sociopolitiques de l'époque. Plutôt que de poursuivre la lutte politique contre Londres, certains préfèrent se joindre aux États-Unis afin de partager avec eux les bénéfices du républicanisme. Cet ennemi interne menaçait, pour ainsi dire, la souveraineté du Canada face aux États-Unis. Aux yeux des observateurs de l'époque, l'union des colonies britanniques d'Amérique du Nord est un projet qui a le potentiel de mettre fin à la crise politique qui ébranle la colonie du Canada, en plus d'assurer une protection contre un éventuel envahisseur états-unien. Tout comme le souligne Mackenzie, la peur constante d'une invasion crée inévitablement une forme de cohésion. Et c'est ce qui s'est vraisemblablement produit au Canada. En somme, l'analyse de cette période nous permet de constater que l'amalgame de tensions géopolitiques opposant l'Empire britannique et ses colonies à des envahisseurs extérieurs a joué un rôle essentiel dans le processus de création d'un État canadien. Ce n'est évidemment pas la seule raison, mais il est juste de voir cette série d'événements comme un catalyseur ayant mené à la Confédération de 1867. En conclusion, nous pouvons soutenir que la construction et l'affirmation de la frontière canado-états-unienne ont été influencés par une série de conflits et d'événements géopolitiques s'échelonnant entre 1783 et 1867. Nous partageons à ce sujet le point de vue de Cole Harris. Ces événements auront marqué la population de l'Amérique du Nord britannique au point qu'elle se développera beaucoup plus rapidement vers l'ouest afin d'assurer la souveraineté de son territoire. Le tout avec l'aval du gouvernement et une présence militaire accrue qui montre l'importance de ces mouvements de menace. Percevant constamment les États-Unis comme une menace plutôt qu'un partenaire, les habitants des colonies ont construit une identité en opposition à leurs voisins du Sud, cherchant, par le fait même, à affirmer la frontière séparant les deux États. Cette frontière, fruit d'un compromis entre deux États, divise le monde anglo-saxon nord-américain en deux entités nationales multiculturelles, peut vraisemblablement être perçue comme un des fondements du nationalisme canadien. David Bouchard est étudiant à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke. C'était l'établissement de la frontière canado-américaine et la création d'un État canadien en 1867. Un texte de David Bouchard paru dans le magazine Cap au Diamant, hiver 2002, le numéro 148.
Pollinisateurs recherchent fleurs idéales. Un texte de Pierre Gingras paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Il n'y a pas très longtemps, ils inspiraient le dégoût. Aujourd'hui, la plupart sont à la mode. Le public a réalisé que les insectes pollinisateurs sont responsables d'une grande partie de ce qui se retrouve dans notre assiette et qu'une grande partie de la production agricole a absolument besoin de leur intervention. Mais bon nombre de ces invertébrés sont en déclin et exigent un coup de main. Tour d'horizon, d'un petit monde ailé et quelques suggestions de plantes bienveillantes. À part les abeilles domestiques, les gros bourdons poilus ou encore les guêpes, surtout réputées pour leurs piqûres douloureuses, les insectes pollinisateurs sont méconnus. On en compte des dizaines de milliers d'espèces, mais leur efficacité pollinisatrice varie beaucoup. Le groupe des abeilles est passé maître dans le domaine en raison notamment d'un corps poilu qui permet au passage de recueillir le pollen et de le transporter d'une plante à l'autre, assurant ainsi leur fécondation. Il existe 350 espèces d'abeilles sauvages au Québec qui jouent un rôle essentiel auprès de la flore québécoise. Habituellement solitaires, elles ont très peu de rejetons et sont actives sur une courte période. La championne pollinisatrice reste l'abeille domestique, active durant toute la belle saison et dont les effectifs peuvent atteindre plus de 30 000 individus par ruche au cours de l'été. Les mouches, les sirfs et bombiles notamment, figurent parmi les petites bêtes qui visitent le plus souvent les fleurs. Elles ressemblent parfois à de petites abeilles et jouent aussi un rôle majeur, notamment chez les plantes peu prisées des vraies abeilles comme les carottes et les oignons. Travaillent aussi à la pérennité végétale les papillons, 136 espèces diurnes et 3000 espèces nocturnes, et l'immense regroupement des coléoptères, dont certains, il faut le dire, sont plus connus comme insectes nuisibles comme ces scarabées dévoreurs de jardins et de gazon. De la longue liste de végétaux propices aux pollinisateurs, les plantes indigènes sont toujours les plus recommandées, car elles favorisent particulièrement la faune entomologique locale, tout en étant aussi appréciées de l'abeille domestique. Le hic, c'est que le choix de plantes indigènes en pot est souvent très limité dans les centres de jardin. La plupart du temps, on recommande de procéder avec un semis regroupant plusieurs espèces qui devraient fleurir à diverses époques de la belle saison. Aussi offerts sur l'Internet, ces kits de semences exigent une bonne préparation du terrain et éventuellement une gestion serrée. Sinon, votre beau jardin de fleurs sauvages deviendra rapidement un champ de fardoches. Le meilleur jardin pour favoriser les pollinisateurs compte plusieurs espèces de plantes, notamment des indigènes, fleurissant à divers moments. L'ajout d'un bain d'oiseaux attirera non seulement plusieurs amis à plumes, mais de nombreux insectes, dont les abeilles, qui viendront s'y abreuver régulièrement. Pépinière spécialisée dans la production de plantes indigènes depuis des années, la maison Aiglon Indigo de Lourdes, dans le centre du Québec, privilégient la vente en gros volume. Mais elles vont aussi au détail, seulement en ligne, certaines plantes intéressantes en pot. En allant sur son site et en visitant le catalogue agricole, vous découvrirez un onglet qui mentionne les choix d'espèces attirant les pollinisateurs et leur disponibilité. Chez les arbres et arbustes favorisant les insectes pollinisateurs, à mélanchier, cerisiers décoratifs, sureaux, viornes, physocarpus et sorbiers d'Amérique sont souvent les plus recommandés. Le choix des plantes herbacées, quant à lui, est considérable. Toujours d'actualité, même s'il date de plusieurs années, le document « Plantes mellifères du Québec » suggère plus de 200 espèces indigènes ou horticoles, en incluant arbres et arbustes, par ordre d'importance. Par ailleurs, n'oubliez pas que certaines plantes bulbeuses extrêmement hâtives représentent souvent une planche de salut dès le mois avril. Crocus, cil, pushkinia et les splendides érantes sont de ceux-là. Le jardin Daniel A. Séguin nous fait aussi quelques suggestions. Considéré comme un arbuste, la mélanchier est parmi les plantes indigènes les plus prisées des insectes pollinisateurs. Il fleurit au printemps et donne de délicieux petits fruits. Directeur de l'Insectarium de Montréal, Maxime Larrivé cultive personnellement certaines plantes dans le but avoué d'attirer des insectes particuliers, notamment un papillon, le grand porte-queue. Il invite d'ailleurs le public à visiter le nouveau jardin des pollinisateurs, ouvert en juin dernier en face de l'insectarium et conçu spécialement pour les insectes. Pour favoriser l'ensemble des pollinisateurs, M. Larivet conseille d'abord de planter des espèces qui fleuriront à tour de rôle à partir des premiers jours du printemps jusqu'à l'automne. L'objectif est d'assurer une production de nectar pour de nombreux insectes, dont la présence varie au cours de la belle saison. Par ordre de floraison, il préconise le trèfle et le pissenlit. Certaines municipalités demandent à leurs citoyens d'éviter la coupe de gazon en mai. Viennent ensuite le bleuet, en corymbe, les lilas, les menthes, les liatris, puis les achillées millefeuilles, les monardes, les asclépiades indigènes, les rudbeckies, les échinacées et les odorants boules de jas. Le bouquet d'automne sera composé d'astères, de verges d'or et de sedum. En savoir plus, 70% de la reproduction des plantes à fleurs est attribuable au travail incessant des insectes pollinisateurs. C'était « Pollinisateurs, recherche fleurs idéales », un texte de Pierre Gingras paru le 6 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.